Bonjour à tous. Dans les textes du jour, nous avons lu l'Ancien Testament, que certains appellent plutôt le Premier Testament, puisqu'il précède le Nouveau Testament ou le Deuxième Testament, qui sont dans l'ensemble des collections de textes écrits par une quarantaine d'auteurs divers et variés sur une période de 1500 ans environ. Dieu lui-même a inspiré les auteurs des textes et ceux qui les ont rassemblés pour en faire notre Bible. Ce livre nous parle de Dieu, nous parle de l'humain, répond à nos questions existentielles essentielles qui donnent un sens à notre existence. La plupart des auteurs des textes sont des Hébreux, des personnes appartenant au peuple d'Israël, et sont imprégnés de cette culture et de pratiques traditionnelles si particulières au peuple juif. Alors, pour nous plonger dans cette culture ce matin, je vous invite à relire un des passages du jour dans Josué chapitre 24, les versets 1 à 27. On va lire in extenso, on a eu un résumé tout à l'heure. Donc Josué 24, versets 1 à 27. Josué réunit à Sichem. Je lirai dans une traduction que j'appelle en nouvelle français courant pour éviter les lourdeurs du passé simple de la traduction version second avec des tournures en passé simple. Vous arrivâtes à la mer, vous restâtes dans le désert et vous passâtes le jour-là. Rien de mieux pour vous réendormir le dimanche matin. En nouvelle français courant, c'est plus dynamique avec le passé composé. Donc je lis. Josué réunit à Sichem toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les responsables d'Israël et ils vinrent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient d'autres dieux. C'était la famille de Terah, le père d'Abraham et de Nahor. J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate. Je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan et je lui ai accordé une nombreuse descendance. Je lui ai donné Isaac. Et à Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. J'ai attribué la région montagneuse de Séir à Ésaü pour qu'il s'y installe. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai infligé divers fléaux à l'Égypte avant de vous en faire sortir. Une fois partis d'Égypte, vos ancêtres arrivèrent à la mer des roseaux, mais les Égyptiens les poursuivirent jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors, ils m'appelèrent à l'aide et je plaçai une colonne de nuée entre vous et les Égyptiens. Puis je rabattis sur ceux-ci l'eau de la mer et elle les recouvrit. Vous savez bien comment j'ai traité les Égyptiens. Après cela, vous avez vécu pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduit dans le pays des Amorites installés à l'est du Jourdain. Ils vous ont attaqué, mais je les ai délivrés en votre pouvoir. Je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez pu conquérir leur pays, car je les ai exterminés à votre approche. Le roi de Moab, Balak, fils de Sippor, vous a également attaqué. Il fit même appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui fut obligé de vous bénir, et je vous ai délivré ainsi du pouvoir de Balak. Vous avez traversé le Jourdain et vous êtes parvenu à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, de même que les Amorites, les Périsites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous des frelons qui mirent en fuite les deux rois amorites. Vos épées et vos arcs ne furent pour rien dans tout cela. Ainsi, je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas eu la peine de cultiver, des villes que vous n'aviez pas bâties mais que vous occupez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés mais dont vous mangez les fruits. En conséquence, poursuivit Josué, reconnaissez l'autorité du Seigneur, servez-le sans réserve avec fidélité. débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, « Il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux, car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a libérés, nos pères et nous, de l'esclavage d'Égypte, et nous savons les grands prodiges qu'il a accomplis alors. » C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru et au milieu de tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites qui vivaient dans ce pays. Nous donc aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. Alors Josué a dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint et il exige d'être votre seul Dieu. Il ne supportera ni vos révoltes, ni vos fautes. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous, vous fera du mal et vous exterminera après vous avoir fait tant de bien. Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. Josué reprit. Vous êtes donc vos propres témoins. Vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. Oui, déclarèrent-ils, nous sommes témoins. Alors dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple lui répondit, oui, nous voulons servir le Seigneur, notre Dieu, et écouter sa voix. Ce jour-là, à Sichem, Josué lia le peuple par un engagement solennel, il établit pour le peuple des lois et des règles de conduite et les inscrivit dans le livre de l'enseignement de Dieu. Puis il prit une grande pierre et l'adressa sous le chêne au sanctuaire du Seigneur. Il dit ensuite aux Israélites, « Regardez bien cette pierre, elle servira de témoin à notre sujet, car elle a entendu les paroles que le Seigneur nous a dites. Oui, elle sera un témoin contre vous pour vous empêcher d'être infidèle à votre Dieu. » Alors Josué renvoya le peuple et chacun retourna dans la part de terre qui lui revenait. Pour se remettre dans le contexte. Génération après génération, depuis que Dieu a choisi de faire une alliance perpétuelle avec Abraham, environ 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, voilà le peuple d'Israël installé dans la terre promise, le pays de Canaan. Certes, Dieu a promis cette terre depuis longtemps, pour que son peuple devienne une nation qui sera le canal par lequel Dieu versera ses bénédictions vers toutes les nations de la terre. Dieu a permis la libération de l'esclavage en Égypte. Dieu a accompagné son peuple dans la traversée du désert pendant une quarantaine d'années. Dieu a donné sa loi à Moïse pour que la société s'organise, toutes sortes de lois qui règlent le quotidien de chacun. Le travail, la vie de couple, l'éducation des enfants, l'organisation économique et sociale, l'accueil de l'étranger, la protection des plus fragiles, des orphelins en particulier, de la société, la répartition des richesses et notamment la redistribution des biens lors du jubilé tous les 50 ans pour éviter l'appropriation personnelle des moyens de production, la concentration des richesses au bénéfice d'une minorité. On entend quelquefois que ces lois existent pour nous prouver que notre nature humaine corrompue est incapable de plaire à Dieu et que l'œuvre du Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection à Pâques, nous exonère de même. Nous intéresser à l'esprit de cette loi donnée par Dieu lui-même. Avec comme conséquence qu'on ne s'intéresse même plus au texte du Premier Testament. Mais comment pouvons-nous entrer dans le projet de Dieu pour l'humanité si d'entrée nous ne nous intéressons pas aux écrits du Premier Testament ? Jésus lui-même proclame en Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La volonté du Père, ce n'est pas que dans sa parole premier et deuxième. La volonté du Père, ce n'est que dans sa parole premier et deuxième testament que nous pouvons l'appréhender. Revenons à notre texte. Au chapitre 23 déjà, Josué s'adresse au peuple, au chef, au juge et au responsable. Soyez fermement résolus à observer et à mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de l'enseignement de Moïse, sans jamais vous en écarter. Et au chapitre 24 que nous avons lu, c'est le grand rassemblement à Sichem. Les 12 tribus d'Israël au temps de Josué. Donc Sichem, c'est par ici. Voilà. Donc après la conquête du pays, il y a une répartition des terrains. Chaque tribu a reçu une surface qu'il pouvait exploiter pour subvenir aux besoins de sa famille. La répartition des richesses a été faite plus ou moins en fonction du nombre de personnes de la tribu elle-même. Sichem, c'est un lieu qui est déjà mentionné dans la Genèse, un lieu qui fait référence à Abraham et à sa découverte de la terre promise au cours de sa migration. Jacob également a passé par Sichem après son retour d'exil chez Laban. Josué est âgé aujourd'hui. Il a fait son travail tout au long de sa vie, fidèlement, à l'écoute de l'Éternel, pour conquérir le pays que l'Éternel donne au peuple d'Israël. C'est le moment de faire le point. Chaque tribu est installée sur sa terre, à l'exception des Lévites, la tribu de Lévi, chargée de l'organisation du culte et de la gestion redistribution de la dîme. L'histoire du peuple d'Israël est écrite. Les textes ne changent pas au fil des générations ou des intérêts de ceux qui sont en mesure de diriger le pays. Jésus lui-même fait référence en permanence à ces textes et confirme bien en Matthieu 5, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui les observera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Tradition et culture qui nourrissent la foi et l'espérance. Josué est âgé, c'est le moment de faire le point. C'est le moment de la transmission des valeurs qui font le ciment de la vie sociale. Pour donner du poids à la grande cérémonie, par la bouche de Josué, le Seigneur, le Dieu d'Israël, s'exprime. Verset 2 du chapitre 24, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. » En résumé, Dieu réaffirme qu'il est à l'origine des événements, il est de sa volonté que cette rencontre aujourd'hui à Sichem existe. Abraham a été choisi, le pays lui a été promis, la fin de l'esclavage en Égypte est la conséquence d'une intervention divine, la survie dans le désert n'a été possible que grâce à Dieu, et la conquête du pays débouche sur un moment de stabilité, voire même un début de prospérité en ville et à la campagne. Des maisons, des vignes et des oliviers. Pour certains, La tentation est grande d'oublier d'où ils viennent, d'oublier que Dieu permet ce qu'ils vivent actuellement, d'oublier que la souffrance et les sacrifices des générations qui précèdent permettent de vivre avec moins d'angoisse quant aux aléas des besoins du quotidien, avec cette sortie de plusieurs générations de souffrance et de précarité. C'est le grand moment pour reconnaître que Dieu agit pour tenir sa promesse à Abraham, pour rappeler cette alliance perpétuelle éternelle. Plusieurs centaines d'années auparavant, Genèse 12, versets 2 et 3, l'Éternel s'adresse à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » À Sichem, l'enjeu est de taille. Servir l'Éternel ou simplement tourner la page et se laisser aller à l'adoration des idoles païennes locales, vivre dans un projet qui a du sens et qui aboutira, c'est le projet de Dieu, vers une création renouvelée, d'où le mal aura été maîtrisé, ou bien se laisser aller à la facilité, sous prétexte que nos besoins de base, manger, se loger, se divertir, se soigner, sont satisfaits. L'appel de Josué est clair. Il faut prendre position. L'enjeu dépasse l'individu. C'est le peuple qui doit prendre position. C'est le moment de choisir. Reconnaître l'autorité du Seigneur, le servir sans réserve avec fidélité, se débarrasser des dieux des ancêtres, ou alors s'émanciper de la tradition, de la culture qui mène à la foi et à l'espérance, en choisissant de rendre culte à d'autres dieux. La science, la technique, Mammon, cité par Jésus, le dieu de l'argent, Mars, le dieu romain de la guerre qui est à la mode en ce moment, les dieux du stade, les spiritualités orientales, et vous pouvez en rajouter autant que vous. L'argument final de Josué est son engagement. Alors même qu'il est au bout de sa vie, il proclame devant tout le monde, « Ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » La foule interpellée, convaincue, répond d'une seule voix, « Nous donc aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. » Votre présence ici ce matin prouve que vous avez également fait ce choix. Que Dieu vous bénisse. La cérémonie ne se finit pas si facilement. Josué rappelle l'exigence de ce Seigneur dont le seul objectif est d'avoir à son service un peuple qui puisse être un canal pour déverser sa bénédiction sur toutes les familles de la terre. Josué rappelle que le service de l'Éternel est exigeant et probablement plus exigeant que ce que l'humain est capable. Les écarts seront sanctionnés durement, de la souffrance infligée jusqu'à l'extermination. C'est une menace terrible, un avertissement, mais qui, à ce jour, n'a jamais été mis en œuvre. L'Éternel continue de tendre sa main vers chacun pour l'encourager à entrer dans son projet pour l'humanité. Le peuple semble ne pas comprendre l'avertissement et la mise en garde de Josué et réaffirme. Verset 21. C'est bien le Seigneur que nous servions. Une dernière remarque de Josué. Débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous. En fait, l'idolâtrie était déjà bien présente parmi le peuple d'Israël. Après plusieurs générations d'esclavage en Égypte, une ou deux générations qui ont vécu dans le désert, une génération de contrats, la sédentarisation, la production agricole devenait un nouveau mode de vie dont personne n'avait l'expérience. Par conséquent, il était facile de reproduire les mœurs et coutumes des populations locales. Petite expérience personnelle. Quand nous sommes installés à Lamray, sans grande expérience, j'ai commencé à jardiner. Je regardais et observais mon voisin, notamment pour le choix des variétés et des bons moments pour les semis. On est dans les Vosges, hein, mais pas en Alsace. Pour les Israélites, c'était la même chose. Sauf que pour les populations locales, en plus des travaux de la terre, Il n'hésitait pas à rendre culte aux Baals et aux Astarté pour invoquer l'alternance de pluie et de soleil, propice à une bonne récolte et une bonne fécondité. La tentation de faire simplement comme les voisins, qui ne connaissent pas ou qui ne se soucient pas du Dieu créateur, est plus insidieuse qu'il n'y paraît. Tout au long de son histoire, la tentation et le fait de succomber à l'idolâtrie a mis Dieu en colère. Jamais il n'a mis en œuvre sa menace d'extermination, mais un jour, Israël a été condamné à l'exil. Condamné à l'abandon de la terre promise, après que plusieurs générations aient pratiqué ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Une dernière réponse de la part du peuple, c'est la troisième affirmation. Oui, nous voulons servir le Seigneur notre Dieu et écouter sa voix. Ouf ! Josué peut s'en aller en paix. Il a transmis l'essentiel. À la génération suivante d'appliquer le programme « Écouter Dieu et le servir ». Un document est rédigé, un symbole, un monument est installé. Lieu de mémoire, une grande pierre est placée sous un grand arbre. Pour se souvenir, ici, le peuple s'est engagé à écouter et servir le Seigneur éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est là que normalement devrait sortir une pierre pour l'installer ici, parce que vous aussi, vous engagez à faire. Mais ce n'est pas notre culture. C'est la différence entre la culture qui nous influence et la culture judaïque. Dans le judaïsme, le corps et l'esprit, ça fait la même chose. Quand on dit quelque chose, on le fait, quoi. Quand on dit on chante et on danse. Voilà. Mais c'est, on ne sépare pas le spirituel et le corporel. Ça fait une unité. Chez nous, on a perdu ça par l'influence de la culture dite grecque. C'est comme ça. Donc voilà, je dois mettre un caillou là, hop, voilà, vous êtes engagé. Vous en avez. Donc, un texte ancien, une histoire chargée de symboles qui nous révèle qui Dieu est et qui nous sommes. Si nous nous identifions à un membre du peuple de l'époque, notre engagement chrétien est encouragé par les grands événements qui rythment l'année, ne serait-ce que le dimanche, les grandes fêtes de Noël, de Pâques, de Pentecôte, mais au quotidien, restons vigilants pour ne pas nous compromettre avec les idoles du moment dont la notoriété est amplifiée par l'actualité médiatique et politique et maintenant par les réseaux sociaux dont la mode des influenceurs frise la dévotion idolâtre pour leurs suiveurs dès le plus jeune âge. Il est important de savoir dans quel monde nous vivons. Il n'est pas question d'isolement, de vivre en marge de la société, de partir vers un couvent ou de devenir ermite. Il convient de s'engager dans l'écoute de ce que Dieu dit, dans sa parole en particulier, et de s'encourager à l'obéissance et à la fidélité. Bien sûr, il n'est pas question de revenir aux quelques centaines de choses à faire et à ne pas faire de la loi de Moïse. Les apôtres du premier siècle ont tranché. La circoncision, les règles alimentaires ne sont pas nécessaires pour faire partie du peuple de Dieu qui, depuis Jésus, est prêt à accueillir et par extension tous les humains de toute la terre. Mais en tant que membre de ce peuple, en tant qu'élément actif du projet de Dieu, nous devons veiller particulièrement à la justice, la paix, le soin des précaires, l'accueil des personnes parties loin de chez elles et la recherche de la cohésion du peuple de Dieu. Tous les chrétiens de toute la terre, quelles que soient leurs traditions et leurs cultures, pour qu'enfin la bénédiction divine puisse se déverser au bénéfice de toutes les familles de la terre. Pour conclure, à travers cette histoire ancienne du temps de Josué, nous sommes encouragés et édifiés. Les récits de l'Ancien du Premier Testament sont souvent négligés dans notre spiritualité. Mais se familiariser avec le projet de Dieu pour l'humanité, et non seulement mon petit salut personnel, exige de se plonger dans la grande histoire racontée dans la parole de Dieu, et pas seulement à sortir un verset de son contexte pour en faire un slogan. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non, mais c'est un bon slogan, il ne faut pas le dire, c'est bien. C'est bien de le remettre dans son contexte pour montrer à quel moment est survenue cette affirmation. Nous assumerons les circonstances existentielles de notre génération, parce que ça, c'est pas évident, quand une génération dit à l'autre, vous nous avez pourri la planète et on ne sait pas ce qu'on va devenir. Donc, on a eu notre contexte, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et la génération qui suit, elle fera face à ces défis ils prendront les bonnes décisions pour aller dans le bon sens. Voilà. Nous assumerons les circonstances existentielles de notre génération pour transmettre des valeurs à ceux qui nous succéderont. Pour vous encourager à étudier ces textes premiers, je vous lis quelques livres de cet ouvrage qui s'appelle « Éthique et Ancien Testament » de Christopher Wright. C'est là que ça va être ma conclusion. Une vision du monde est constituée d'un ensemble complet d'hypothèses que fait une personne ou une culture en répondant à plusieurs questions fondamentales auxquelles doivent faire face tous les humains. Parmi ces questions, mentionnons les suivantes. Où sommes-nous ? Quelle est la nature de l'univers et de la planète sur laquelle nous vivons ? Comment sont-ils arrivés là et quel est leur avenir ? Qui sommes-nous ? Que signifie le fait d'être humain et en quoi nous distinguons-nous du reste des créatures vivantes au milieu desquelles nous vivons? Qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce qui explique que les choses sont telles qu'elles sont et ne correspondent pas, nous le sentons instinctivement, à ce qu'elles devraient être? Quelle est la solution? Que peut-on faire pour remettre les choses en ordre? Y a-t-il un espoir pour l'avenir? Et si oui, en quoi, en qui et pourquoi? La vision du monde d'Israël apportait des réponses à chacune de ces questions. Où sommes-nous? Ce monde fait partie de la création bonne d'un Dieu vivant et unique que nous connaissons comme le Seigneur. Il appartient intégralement à ce Dieu, donc le monde appartient intégralement à ce Dieu, rien n'appartient à d'autres dieux. Le Seigneur est souverain sur tout ce qui existe, dans le ciel, en haut, sur la terre, en bas et jusque sous la terre. Qui sommes-nous, nous? Nous, au sens large, sommes des êtres humains faits à l'image du Dieu créateur. Nous avons été conçus pour être en relation avec Dieu et les uns avec les autres. Qu'est-ce qui a mal tourné? Ce qui a mal tourné, c'est que les êtres humains se sont révoltés contre le Dieu créateur, lui désobéissent moralement et spirituellement. Cette révolte a eu des conséquences mauvaises sur tous les aspects de la vie humaine, la personnalité de chaque individu, les relations que nous avons les uns avec les autres, avec notre environnement physique et avec Dieu. La solution. La solution appartient au même Dieu créateur qui a traité le problème des nations qui constituent l'humanité par son plan historique de rédemption, commençant par le choix d'Abraham, le père de la nation d'Israël. Son projet s'étendra finalement jusqu'à la bénédiction de toutes les nations de la terre et l'instauration d'une nouvelle création. Voilà notre espérance. Amen.